Alors, j'ai pensé, vu que c'est la Saint-Jean cette semaine, de parler un peu de Jean-Baptiste. Quels sont ceux qui se souviennent des parades de la Saint-Jean-Baptiste, les processions de la Saint-Jean? Levez la main. Alors, j'ai des photos pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui ont manqué ça. Des photos du... ça avait l'air de ça. Alors, il y avait d'autres participants. Le personnage principal, c'était Jean-Baptiste avec un mouton. Et tu avais les zouaves pontificaux. C'est une fête qui était religieuse à l'époque, hein? Alors, ça vous donne une petite idée. Moi, j'ai parcouru les rues à Drummondville, là. C'était toute une fête. Tout le monde descendait dans la rue, puis c'était une fête religieuse à ce moment-là. Et j'ai un petit quiz pour la Saint-Jean. En Nouvelle-France, que représentait le 24 juin? Trois choix. C'était une fête pour soutenir le solstice d'été, une fête religieuse pour l'abondance des récoltes, la protection contre les Iroquois, et une fête pour souligner la défaite de l'amiral Phipps. Souvenez-là, je lui répondrai par la bouche de mes canons. Frontenac, il avait dit ça. En Nouvelle-France, oui, oui. Alors, combien qui votent pour A? B? Et C? Eh bien, le solstice d'été. La fête de Jésus, c'est le solstice d'hiver, où le soleil commence à se lever. Puis Jean-Baptiste, c'est le soleil qui commence à réduire. Alors, ça avait une valeur symbolique parce qu'on ne sait pas la date de sa naissance. Ensuite de ça, d'abord patriotique, la Saint-Jean-Baptiste a pris une tournure religieuse en 1842 avec la présentation en Québec d'une procession. C'est le début d'une tradition, soit le défilé de la Saint-Jean. Vrai ou faux? Ceux qui disent vrai? Ceux qui disent faux? Ceux qui ne savent pas? Ceux qui sont honnêtes, là. Et la réponse est vraie. En 1842, ça a commencé. Alors, presque 500, plus que 100 ans avant la naissance. Canadiens-Français fêtent la Saint-Jean depuis 1834. Toutefois, Jean-Baptiste est devenu le patron des Canadiens-Français depuis... Quelqu'un le sait? Non? Je ne le savais pas moi non plus. Hey! 1908. Alors, ça fait... OK. Non, mais on dit pas, on passe... T'aurais pu passer pour un historien fameux. 24 juin 1880, un nouveau chant patriotique entonné lors de la Saint-Jean à Québec. Lequel? Avez-vous une idée? Le Haut-Canada. Hein? Oui, oui. C'est bon. Quel important événement a politisé le défilé de la Saint-Jean? C'est la Révolution tranquille, l'émeute du 24 juin 68, la crise d'octobre, l'élection du PQ. Le défilé de la Saint-Jean qui a été politisé par la Révolution tranquille. Saint-Jean-Baptiste est devenu fête nationale des Québécois, hein? 70, 77, 63. Mais les trois. Et les gagnants sont 77. Et une autre question, la dernière. Selon le Coran, Jean-Baptiste est un prophète ressuscité par Mahomet. C'est faux? Non, c'est vrai. Selon le Coran. Ouais. J'ai pas la référence, mais j'aurais dû avoir la référence. Ça aurait été bon. Alors, cette semaine, on cherche la référence. Alors, ma question ce matin, c'est si Jean-Baptiste était parmi nous, qu'est-ce qu'il dirait de sa fête? Si Jean-Baptiste... ouais, c'est bon, ça. Hein? Oui, lui croise et que je diminue. C'est bon, ouais. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de notre patron, parce que c'est notre saint patron, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Alors, on va faire un survol un petit peu de ce qu'il a été. Et on commence par sa naissance ou son arrière-plan, son enfance. Zacharie, c'était pas n'importe qui, c'était un sacrificateur. Hein? C'était un peu comme l'élite parmi les peuples, parmi les tribus. Élisabeth, descendante d'Aaron, c'est bon aussi. Ils étaient justes devant Dieu, il y avait des justes en Israël. La définition, c'est qu'ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Donc, devant la loi de Dieu, ils n'avaient rien fait qui pouvait être pointé du doigt pour dire ils n'ont pas suivi la loi. Et elle était stérile, Élisabeth était stérile, elle était d'un âge avancé. Et ça, ça nous rappelle quelqu'un, n'est-ce pas? Sarah, la femme d'Abraham. Et là, il y a une apparition étonnante. Gabriel apparaît à Zacharie pendant qu'il fait son service. Et il lui annonce qu'il va y avoir un fils. Tu l'appelleras du nom de Jean. Tu veux dire, Jean? Les gens ici, le Jean Beaumolo, Jean-Baptiste. Hein? Ça veut dire Dieu fait grâce. C'est étonnant parce que c'est pas vraiment le portrait qu'on a peut-être, la première impression qu'on a de Jean-Baptiste. Dieu fait grâce. Ça semble être le contraire, comme on va voir. Et il lui annonce, et il va être rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Et on voit ça un peu plus loin dans Luc, quand Marie a salué Élisabeth. Son enfant tressaillit dans son sein. Mesdames, peut-être pourriez nous dire ça. Ça se peut-tu que les enfants dans le sein, il y avait peut-être 6 mois, réagissent à ce que la maman, les émotions que la maman a en donnant des coups de pied, je sais pas, en tressaillant. Il y a quelque chose d'assez spécial, là. Il dit, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Alors, même avant sa naissance, Jean-Baptiste était impressionné, était par la venue du Messie, si on peut dire. Dans Luc, un peu plus loin, un peu avant, plutôt, il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. Alors, c'était une attente, un prophète comme Élie, qui avait été prophétisé, qu'on attendait, on attendait le jour, puis je pense que ça faisait 400 ans qu'il n'y avait pas eu vraiment de révélation de prophète en Israël. Et là, tout à coup, l'ange Gabriel qui annonce que il va y avoir un prophète comme Élie, qui est un prophète avec des performances assez exceptionnelles. Et sa mission, ça a été de préparer le peuple à la venue du Messie. Alors, imaginez, Zacharie qui écoute ça, qui est incrédule, perd la voix, plus capable de parler, et il la retrouve le jour où il dit, il va s'appeler Jean, ce qui brisait un peu la tradition à l'époque. Et à partir de ce moment-là, toute la Judée, hein, tout le pays des alentours, les montagnes, s'entretenaient de tous ces événements, tous ceux qui en entendaient parler les prirent à cœur et dirent, que sera donc ce petit enfant? Les yeux étaient tournés en Judée, là. Il s'est passé quelque chose là. Et qu'est-ce qui va sortir de là? Qu'est-ce qui va devenir ce prophète qui est attendu? Et ça a pris peut-être une trentaine d'années. Il est devenu peut-être orphelin, on ne sait pas, peut-être devenu orphelin très jeune, puis ses parents étaient avancés. Mais c'est dit que le petit enfant grandissait, se fortifiait en esprit, et il demeurait dans les déserts, jusqu'au jour où il se présentait devant Israël. Et le désert, C'est un endroit où Élie allait vraiment se ressourcer, recommuniquer avec Dieu, où Dieu parlait à Élie. C'est un endroit où Jésus aussi est allé au désert, a commencé son ministère au désert. C'est un endroit où le peuple de Dieu, Dieu est allé, a parlé à son peuple d'une façon spéciale, l'a préparé à entrer dans la terre promise. Donc, Jean-Baptiste se tenait dans le désert. Alors ça, c'est son arrière-plan. On peut se poser une question. On va la terminer avec ça tantôt. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de Jean-Baptiste à travers ce qu'on vient de voir, à travers ce qu'on va voir, son ministère, son message? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Jean-Baptiste aujourd'hui? Cette semaine, c'est la fête de Saint-Jean. Est-ce que on se met à manger des sauterelles? J'aimerais... Mais j'ai essayé ça des cuites, hein? Ils ont ça au... On s'appelle le... Ouais, insectarium ou planétarium, ou en tout cas. On peut manger des sauterelles. C'est très bon. Avec du miel. Est-ce que c'est ça, notre... Alors, la semaine prochaine, c'est le... Cette semaine, c'est le déguisement ou c'est le nouveau look pour nous, si on veut imiter Jean-Baptiste. Alors, ça, c'est probablement pris dans les Jourdains. Ça ressemble beaucoup à ce Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Même aujourd'hui, à l'époque, c'était étrange. Aujourd'hui, ça, c'est encore plus étrange. Hein? Sauf dans les années 60. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est... Hein? Mais on peut dire qu'il attirait l'attention. N'est-ce pas? Il attirait l'attention. Il y avait eu toutes sortes de rumeurs à son sujet. Il vivait dans le désert. Il s'habillait autrement. Il mangeait des choses autrement. Mais ce n'était pas un antisocial. Comme les Esséniens. Il y avait une secte à l'époque qui s'appelait les Esséniens, comme à Qumran, là. Et eux autres, ils se séparaient vraiment parce que tout le peuple était corrompu. Tandis que Jean-Baptiste, c'était le contraire. Lui, Jean-Baptiste, là, les foules venaient à lui et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Alors, c'était un peu comme l'inverse de cette secte-là. Il y en a beaucoup qui l'associent. Peut-être qu'il y a eu des idées là, mais moi, je pense qu'il était le contraire des Asséniens. Il attirait le monde. Il y avait un message dans sa façon de vivre. Il y avait un message qui faisait réfléchir, qui faisait questionner les gens, qui faisait se poser des questions. En le voyant, il exprimait quelque chose dans sa façon de vivre, dans son, même son, sa façon de s'habiller. Pourtant, Jean-Baptiste aurait pu être sacrificateur. Il aurait pu choisir de faire comme son père et descendant d'Aaron, comme sa mère. Mais il semble qu'il a vu toute la corruption qu'il y avait dans le culte, dans le temple, dans les chefs religieux, il a vu tout ça, puis c'est comme il a fait yak. Il y a eu comme une réaction de se retirer de ça. Hein? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je pense que c'était ça que Jean voyait. Lui, il voyait combien que le peuple était loin, 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 loin de Dieu. La pratique extérieure était toujours là, mais le cœur était pas là. Et Jean voyait ça et ça lui faisait mal. Jean, c'est un passionné qui allait au bout de ses au bout de ses convictions. Il n'avait pas peur de ses convictions. Passionné. S'il avait été un peu plus jeune, je pense que c'est lui qui aurait écrit le psaume 119. Hein? Psaume 119, ça c'est quoi? J'aime ta parole, j'aime tes commandements. 150 versets qui parlent de l'amour que Jean avait la parole de Dieu, mais conscience sensible, conscience éveillée, de voir son peuple qui est si loin de Dieu, ça l'empêchait de vivre une vie plaisante. Il était vraiment obsédé, entre guillemets, parce que si lui avait la mission de préparer le Messie, puis si le Messie arrivait à ce moment-là, il aurait tout détruit. Le peuple était pas prêt à recevoir le Messie, il était prêt à recevoir le jugement et la colère, la condamnation de Dieu. Et ça le motivait. Et c'est pour ça que son message, c'est un appel à la repentance, le baptême de la repentance. Revenez à Dieu, purifiez vos cœurs, faites-vous baptiser. Le signe de cette purification-là, c'est le baptême. Alors Jean, il attendait le Messie. Jean attendait que, même avant sa naissance, il a tressailli dans le sein de sa mère. Alors il y avait cette passion-là. Et là, il savait qu'il était sur le point d'apparaître, là. C'était une question de jours ou d'années au maximum. Et dans les évangiles, on voit que le ministère de Jean-Baptiste est très, très, très important. Il est étroitement lié au ministère de Jésus. Il y a trois évangiles et synoptiques qui se mettent ensemble pour nous donner un portrait de ça. Mais c'était très important, le ministère de Jean-Baptiste. On le voit dans le témoignage de Jésus. Êtes-vous donc allé voir au désert un prophète? Oui, vous dites, j'ai plus qu'un prophète. Il était plus qu'un prophète. C'est lui dont il est écrit, voici, j'envoie devant toi mon messager pour préparer ton chemin devant toi. C'est Dieu qui parle, l'Éternel qui parle à son Messie. Puis il dit, Jean-Baptiste, c'est toi qui vas préparer le chemin du Messie. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Depuis tous les personnages, Moïse, Abraham, et tous les prophètes de l'Ancien Testament, il n'y a pas eu de plus grand que Jean. Et dans Matthieu, il dit, en effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé. Et si vous voulez le croire, c'est lui, cet Élie qui devait venir. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. Alors, il y a un lien très étroit entre Jean-Baptiste et Jésus. Il était plus qu'un prophète, c'était le messager de Dieu, le dernier messager de Dieu qui, avant que le Messie apparaisse, c'était la fin d'une époque, c'était la fin de la loi et des prophètes, la fin de l'Ancien Testament. Et c'était l'Élie qui devait venir. Maintenant, son rôle, son mandat, c'est clair, c'est quoi? Quel était le rôle, le mandat Jean-Baptiste? Préparer le chemin. Plusieurs endroits, c'est dit, il est proche. Le royaume de Dieu est proche. Et les gens le croyaient. Les gens croyaient ce que Jean-Baptiste disait. Il préparait les cœurs pour lorsque Jésus va apparaître, les cœurs vont revenir à Dieu, vont revenir au Seigneur. Alors, Dieu parle à nouveau. Dieu se révèle à nouveau à son peuple, à travers un nouvel Élie, à travers Jean-Baptiste. L'espoir renaît. On va le voir apparaître bientôt. Le Messie s'en vient. Et le royaume de Dieu s'en vient. Le royaume qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Il va apparaître d'une minute à l'autre. Il s'en vient, le royaume de Dieu. Hein? Préparons-nous. Préparons-nous. Son message, c'est Dieu, il parle fort, il parle direct, il parle violemment. Et la façon dont il traite ceux qui ne se repentent pas, hein, il dénonce le mal. Il dénonce le mal tel qu'il est. Espèce de vipère, ça veut dire quoi ça, espèce de vipère? Il réfère à quoi? Vipère, c'est quoi? Un serpent, une espèce de serpent, race de serpent, postérité du serpent. Hein? C'était direct, là. Hein? C'est une référence directe au Jardin d'Éden, vous êtes les, vous êtes engendrés par le diable, le démon, espèce de vipère. Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu? Alors, Jean-Baptiste, lui, ce qui le préoccupait, c'était que les gens sont pas prêts à recevoir le Messie. Ils doivent se rendre compte que s'il arrive, là, c'est la condamnation. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Fiez-vous pas que vous êtes juif, et parce que vous êtes juif, vous allez au ciel, hein, on pourrait dire ça de même. Il dit, regardez les pierres, là, et Dieu peut prendre ces pierres-là puis en faire des enfants d'Abraham. Alors, ne vous fiez pas sur vos pratiques ou votre origine. La hache est sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de son fruit sera coupé et jeté au feu. Alors ça, c'est un message clair, net et précis. Le peuple mérite le jugement, la condamnation de Dieu. Et si le Messie arrive, c'est ça qui va se produire. L'effet que ça a eu, c'est quoi? Pour Jean-Baptiste, de dire à Hérode, Antipas, t'es marié avec la femme de ton frère, t'es marié dans l'adultère, ça lui a coûté quoi? La tête. Hein? Il a payé le prix. Mais il fallait qu'il dénonce le jugement de Dieu. Ce qui est frappant dans ce contexte-là, c'est que Jésus annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres exhortations. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu s'en vient avec son jugement. La colère de Dieu va se révéler sur tous ceux qui ne se repentent pas, hein, parce qu'il y avait deux sortes de personnes. On est tous pécheurs. Il y a ceux qui se repentent, et il y a ceux qui ne se repentent pas. Où était l'espoir? Où est Dieu fait grâce là-dedans? Où est Jean-Baptiste? Quand il dit Dieu fait grâce. Dans le fait que je reconnais que je suis sale, que je suis impur et que je me lave. Comment on fait ça? Les gens allaient se faire baptiser, ils allaient se faire immerger, ils allaient se faire baigner, ils allaient se faire purifier pour signifier qu'ils reconnaissent qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir le royaume de Dieu, qu'ils n'étaient pas prêts à accueillir le Messie et qu'ils avaient besoin d'un profond nettoyage, un baptême de repentance. Les pharisiens, les chefs religieux, pour eux, c'était inacceptable. Trop orgueilleux pour se faire baptiser. Ils se pensaient correct. Et même notre guide en Israël, qui est juif, nous disait que les juifs baptisaient les prosélytes. Comme ça. C'est pas un rite que Jésus a inventé, ni Jean-Baptiste. Les juifs baptisaient les prosélytes. Tous ceux qui étaient intéressés à devenir juifs, ils les faisaient baptiser. Imaginez-vous le pharisien. Imaginez-vous le scribe. Imaginez-vous le juif qui pratiquait la loi, se faire baptiser, humiliant au bout. Impossible. Ils devaient reconnaître qu'ils étaient dans l'erreur, ils devaient reconnaître qu'ils étaient pécheurs perdus, qu'ils avaient besoin de la grâce de Dieu. Ils avaient besoin que Dieu leur fasse grâce, et la façon de procéder, la façon de voir, de prouver, d'expérimenter cette grâce-là, c'était en allant se faire baptiser par Jean. On témoignait là qu'on reconnaissait notre état pécheur perdu et on avait besoin du salut. Il n'y a pas un orgueilleux qui pouvait se faire baptiser dans le Jourdain et suivre Jean-Baptiste. Jésus lui-même s'est fait baptiser. Ce qui était impur, était sale. Pécheur. Non? Pourquoi il s'est fait baptiser? Hein? Non. Pas comme exemple. Bien sûr, c'est un bon exemple, mais pourquoi est-ce que Jésus, qui était pur, qui était saint, qui était parfait, est allé se faire baptiser? Qu'est-ce que Jean dit quand il a vu Jésus? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu va être sacrifié, on lui tranche la gorge. Hein? On va le clouer à la croix. Et ça, c'est le sacrifice qui expie le péché, qui enlève le péché du monde. Wow! Alors, pourquoi est-ce que Jésus s'est fait baptiser? Parce qu'à ce moment-là, il portait sur lui, il a pris sur lui nos péchés, notre saleté, notre impureté, tout ce qu'on a fait de mal, tout ce qu'on a dit de mal, Jésus l'a pris sur lui et dit, j'ai besoin que tu me baptises. En signe du baptême qu'il allait avoir à la croix, de ce jugement de Dieu qui allait tomber sur lui. Parce que quand on se fait baptiser, on subit le jugement de Dieu, on est noyé, si on peut dire, enseveli sous la condamnation. Et quand on ressort, qu'est-ce qui se passe? Lavé, purifié, ressuscité dans une nouvelle vie. On est de nouveau. Hein? Ça, c'est le symbole de ce qui s'est passé dans notre cœur. Alors, démonstration publique, visible, que je suis pécheur, que j'ai besoin d'être lavé, purifié de mes péchés. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et ma question, qu'est-ce qu'on peut retenir de Jean-Baptiste aujourd'hui? Manger sauterelle? C'est quelque chose dans son mode de vie, dans son look? Il était audacieux. L'audace, ouais. Fidélité, oui. Un homme qui était fidèle à ce que Dieu disait. Monsieur, c'est un zarandre. Ouais. Un mouvement, hein. Simplicité volontaire, je sais pas trop, là. Ouais, c'est un message, ça. Hein? Il y a quelque chose dans notre façon de vivre qui peut envoyer un message. Ça serait quoi? Oui? Ouais. Conscient de la sainteté. Comment? Dans ma façon d'être, de vivre, de m'habiller, peut-être. Je peux envoyer le message. Pardon? Intègre. Ouais. Ouais. Une passion, je dirais, pour la vérité, pour le droit, pour ce qui est juste, pour ce qui est correct, pour ce qui est... Ouais. C'est un Jean-Baptiste qui pourrait ramener les Québécois au Seigneur, parce que pour la plupart maintenant, on va se dire non pratiquant et même de plus en plus non croyant. Hein? Si je recule de 10 ans, là, 20 ans, personne se disait non croyant à peu près, là, c'est vraiment exceptionnel. Mais de plus en plus, j'entends des personnes ordinaires. Ça fait partie de la société, de la croyance, Et de plus en plus, on est passé de toutes les religions sont bonnes à toutes les religions sont pas bonnes. Hein? Il y a un glissement là. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Moi, j'espère que c'est comme un balancier. Hein? On va dans un extrême. Et puis, on va vivre sans Dieu, sans foi ni loi, comme l'Antichrist qui s'en vient, hein? Sans foi ni loi. Je ne crois plus en rien, il n'y a plus de loi qui me dit quoi faire. On s'en va vers ça. Mais ce que j'espère, c'est que le balancier va revenir, et puis là, Jésus-Christ va devenir comme une nouvelle découverte. On va découvrir Jésus-Christ. Parce qu'il y a une ou deux générations là qui, écoutez, ils savent rien, absolument rien de Jésus là, hein, au Québec. Mais ça, peut-être, c'est bon, parce que quand on leur présente le vrai Jésus, une relation personnelle avec Jésus, peut-être ça va commencer à intéresser, susciter l'intérêt. On va devenir des Jean-Baptiste qui suscitent de l'intérêt. Toi, par ton mode de vie là, par ta façon d'être, ta façon de... tu me fais poser des questions. Tu sais, pourquoi tu t'envoies pas en l'air avec tout le monde là, à Saint-Jean-Baptiste? Hein? Qu'est-ce qui... je me suis envoyé en l'air, là, je fais juste vomir, puis... yark, hein, dégueulasse. Peut-être qu'il y en a qui, en quelque part, vont dire... hey, ceux-là, ils ont l'air heureux, là. Ils ont pas besoin de toutes ces cochonneries-là. Puis, ils ont l'air heureux. Hein, ça ressemble à Jean-Baptiste, ça. Donner une alternative aux gens qui nous entourent, leur dire, hey, être chrétien, là, c'est pas, j'étais en punition, puis il faut que j'aille à l'église le dimanche, puis, hein, comme une punition. On est privé de tous les plaisirs de la vie parce qu'on est, non, c'est le contraire. C'est le contraire. La vraie vie, c'est présence de Dieu. La vraie vie, là, c'est ce qu'on a ce matin. On est ensemble, les enfants de Dieu, réunis avec Dieu ensemble. Ça, c'est la vraie vie. Puis quand on va mettre le pied dehors, là, surveillez-vous, là, parce que vous allez attraper Jésus. Hein? Je suis contagieux. Peut-être que je peux pas parler, peut-être que je peux pas le dire avec des mots, mais on peut marcher, ou bien on peut, hein, on peut le dire avec nos mains, avec que nous, on a une espérance qui est différente de ce que le monde peut avoir aujourd'hui. Alors, j'espère que le balancier là, est allé assez loin et que le Québec va revenir à ses racines. On va fêter la Saint-Jean-Baptiste d'une façon qui honore notre patron. Hein? Alors, c'est à nous ce mandat-là. Différent, mais pas antisocial. Pas séparé des pécheurs. Hein? Pas cette attitude-là. Mais attirant. Attiré et attirant pour les gens qui sont autour de nous. Jean-Baptiste, son message, c'est son nom, c'est Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Ça, c'est le message qu'on peut retenir. Hein? Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Allons réconcilier le monde avec Jésus. Et notre message, notre façon d'être, c'est le moyen que Dieu veut utiliser aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autre que ses enfants pour apporter ce message-là durant la Saint-Jean. Dieu fait grâce. Reconnais que tu es sale. Reconnais que tu es indigne devant Dieu. Et fais-toi laver, fais-toi purifier, fais-toi baptiser. Hein? On va avoir un baptême bientôt, j'espère. Et ça, c'est un beau modèle que Jean-Baptiste a laissé à Jésus et ses disciples. Et c'est un modèle qui dure depuis 2000 ans. Lavons, purifions les gens qui sont autour de nous. Amen. Qu'est-ce que vous diriez si on prenait pas longtemps, rapidement, 2-3 minutes, et juste prier pour ça. À 2-3 personnes ensemble, on va prier pour la Saint-Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Que on soit vraiment des témoins.